Prochaine projet d'apprendre à mettre un tel élève. Mais je pense qu'il est utile que nous soyons là pour le thème, ce sera la famille. La famille est très importante. La famille est un pilier dans la société. Donc, nous savons que nous vivons des temps difficiles pour les normes, les principes qui ont été dépassés. Mais Dieu aime la famille. Et Dieu aime le couple. C'est le projet de Dieu et le plan de Dieu de la famille. Alors, prenez ce temps pour prier pour la famille. Amen. Voilà, nous avons écouté la parole de Dieu. C'est le pasteur Jean-Jacques qui nous parle de la parole du Seigneur. Nous l'accueillons dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur.
Alléluia. Voilà, notre lecture est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, 13. De Matthieu, chapitre 16, verset 13, où il nous est dit que Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je pour dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre et que cette roc, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-elle à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Alléluia. Voilà, Jésus qui se présente comme le Fils de l'homme et qui pose cette question: que dit-on au sujet? Que disent les gens? C'est la première question. Alors, il y a, vous l'avez compris, diversité d'opinions, les uns disent d'une manière, les autres d'une autre, et ce qui était vrai à l'époque est vrai aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dire que c'était quelqu'un de remarquable, voilà, c'était quelqu'un d'autre, d'autres vont dire qu'il était prophète, mais nous croyons, selon les Écritures, que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et notre base et notre référence pour pouvoir dire les choses, ce ne sont pas ce que disent les hommes, ce ne sont pas les suggestions et les propositions qui sont faites, mais notre fondement, notre base, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous croyons cela parce que la Bible le dit, parce que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, qu'elle est parfaite, qu'elle est infaillible et qu'il n'y a lieu ni d'ajouter ni de retrancher quoi que ce soit. Alléluia. La foi repose sur les Écritures, ce que nous disent les Écritures au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, au sujet de l'Église, à notre propre sujet et en particulier notre besoin d'un sauveur. Alléluia. L'apôtre Paul écrivait que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu aussi, bien sûr, soit accompli et propre à tout bonheur. Toute l'Écriture est inspirée. Ce livre que nous avons a été inspiré par le Saint-Esprit. Ajouter quelque chose revient à dire que Dieu n'aurait pas su dire suffisamment les choses. Tu serais comme juger Dieu Donc, on ne prend pas le risque de le faire. Retrancher quelque chose voudrait dire que Dieu se serait trompé et nous n'aurions pas non plus, évidemment, faire cela. Mais je crois qu'il y a dans la Bible, dans les Écritures, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre vie ici-bas et bien sûr pour avoir l'assurance dans la vie éternelle.
Amen.
Moi, je m'interrogeais sur ce que doit être mon attitude dans la société, sur le lieu de travail, dans la famille, dans l'Église. Je sais que l'Écriture, la Bible, me donne les informations nécessaires, utiles, indispensables pour savoir quelle doit être ma conduite. Et j'ai un modèle. Je crois que nous l'avons tous, je l'espère, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Que ferait Jésus à ma place? Dans telle situation, quelle serait l'attitude de Jésus? Quelle serait ta réponse? Parfois, nous répondons promptement et il est nécessaire parfois de savoir se retenir et d'examiner les choses. Et en tout cas aussi de vérifier, est-ce que Jésus peut agréer une telle attitude? Est-ce que Jésus peut agréer une telle parole? Notre modèle, c'est Jésus. L'apôtre Pierre a rappelé notamment que Jésus a dû souffrir et il s'adressait en particulier à ceux qui étaient serviteurs, littéralement des esclaves. Et il savait que ça n'était pas facile pour eux. Et il dit, Jésus lui-même a souffert. Et Jésus a subi l'injustice. Jésus a dû faire face à l'opposition, à l'adversité, à toutes sortes d'injures, à la violence, et notamment la violence de la croix. Mais Pierre dit que Jésus, notre modèle, sur ses traces, nous devons marcher, et que Jésus n'a jamais répondu au mal autrement que par le bien.
Alléluia.
Et il s'en remettait à Dieu. Il s'en remettait à celui qui juge justement. Peut-être quelqu'un au milieu de nous passe par des moments difficiles, ça arrive. Et peut-être quelqu'un est en proie même à quelque injustice, ça arrive. Et peut-être quelqu'un est parfois des gens de rien pire, mais finalement subi des maltraitances. Parfois on est étonné, hein, et on ne savait pas que c'était la maison un peu plus loin. Et parfois, on peut avoir au milieu de nous quelqu'un qui fait les choses, mais qui souffre, qui est maltraité, abusé. Il y a des abus. Seigneur peut consoler, le Seigneur peut guérir, le Seigneur va donner aussi la bonne attitude. Alléluia, celle qu'on va honorer et au sein de laquelle et dans laquelle il va venir. Alléluia, c'est ceux qui ont besoin, nous voulons prier avec eux. Amen. Et tout à l'heure, le temps de jeu de prière peut être justement approprié pour cela. Alors, nous avons un modèle, c'est notre Seigneur Jésus. Et voyez-vous, l'apôtre Paul lui-même, je ne sais pas si on peut dire osait écrire, mais s'il l'a écrit, c'est qu'il savait qu'il pouvait l'écrire parce qu'il était fidèle à Dieu. Il écrivait, soyez mes imitateurs. Est-ce que nous oserions dire, de façon absolue, vous pouvez être mes imitateur de ce que je suis, lui dit, je suis, vous pouvez m'imiter parce que donc je suis moi-même imitateur de Christ. Il s'appliquait à refléter Christ, à vivre Christ, pour les connaître Jésus, et non seulement savoir qui était Jésus, mais connaître Jésus, c'est manifester ce que Jésus est, vivre Jésus. Et il avait donc cette certitude qu'il était en accord avec Jésus et qu'il pouvait se présenter comme un modèle. Ce serait bien que tous les chrétiens puissent être comme des modèles de cette société.
Alléluia.
Par leur bon comportement, leurs bonnes attitudes, leurs bonnes réactions. Alléluia. Par leur amour. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous avons tant besoin et nous avons certainement, bien sûr, des progrès à faire. Vous connaissez cette parole de Jésus au sujet des chefs politiques de l'époque, disait, vous pouvez faire ce qu'ils disent. Et parce qu'ils font. Ils disent, et ce serait dangereux que nous soyons de cela, de ceux qui disent, mais qui, au fond, en réalité, vivent autrement. Que Dieu nous aide à vivre ce que nous proclamons, et je souhaite que ce que nous proclamons, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Une fois que le monde peut être transformé, si les chrétiens se comportent réellement tel que Christ veut qu'ils se comportent. Alléluia. Et le même apôtre Paul, bien sûr, dans la lettre aux Éphésiens, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Avant ça, il a énuméré un certain nombre de choses qu'on ne doit pas connaître dans l'Église, qu'on ne doit pas vivre dans l'Église, les amertumes, les mensonges, etc. Et voilà, ça, c'est la nature humaine, mais devenez imitateurs de Dieu. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Imitateur de Dieu, marchant dans l'amour, selon le modèle, c'est Jésus. Vous savez, la marche, ça évoque la permanence, la continuité, la persévérance. Ce n'est pas suffisant d'avoir accompli quelques exploits ici ou là. Il faut que, de façon continuelle, nous marchions dans l'amour. À l'exemple de Christ, la loi de Christ, la loi parfaite, c'est la loi de l'amour. Christ est donné par amour pour Dieu et c'est donné par amour pour nous. Alléluia. Et de même, nous sommes appelés à aimer Dieu, mais aussi à aimer notre prochain. Alléluia. Comme nous-mêmes. Ah, c'est là où on sait qu'il y a un gros défi. Mais en réalité, si je dis que j'aime Dieu, mais que je n'aime pas mon prochain, alors il faut que je me pose la question, je ne dois pas aimer Dieu comme je devrais. Mais aimer Dieu va impliquer que je vais aimer. Et même celui qui peut-être parlait mal et mal, je vais l'aimer en ce sens que je souhaite qu'il puisse être transformé, qu'il puisse être secouru, qu'il puisse être sauvé. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour. Par l'exemple de Christ nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, la marche évoque l'action. Et la Bible nous dit que nous devons non pas aimer en parole, mais l'action. Alléluia. Et ça évoque aussi parfois l'effort, la souffrance, et aimer impliquera et des efforts et de la souffrance. La preuve, c'est que Jésus, lorsqu'il a aimé, a beaucoup souffert. Et il a souffert par amour pour nous. Alléluia. Donc Jésus pose la question, qui suis-je? Non pas simplement, que dit-on de moi, mais vous-même, à chacun de nous, à chacun des disciples, que dites-vous, qui suis-je pour vous? Et peut-être quelqu'un spontanément dira, tu es Seigneur. Je dirais, il a raison. Alléluia. Jésus est Seigneur. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut le dire avec légèreté. Mais pour comprendre les propos de Paul, il faut voir le contexte. Et en fait, à l'époque, l'empereur romain exigeait qu'on dise César et Seigneur. Se prenait pour Dieu et il fallait dire César. C'est-à-dire que les chrétiens ne pouvaient pas dire César et Seigneur. Ils disaient c'est Jésus qui est le Seigneur. Le seul Seigneur, c'est Jésus. Et ils savaient qu'en affirmant ça, c'était qu'on risque d'être emprisonné, d'être torturé, d'être crucifié, d'être tué. Aujourd'hui, peut-être, il y a des choses qu'on peut les dire avec légèreté, mais réalisons le poids, et réalisons que beaucoup, ça a coûté très cher, et ça a coûté leur vie, et ça allait jusqu'au bout. Et le bien-aimé pense aussi à l'église persécutée. On a la carte ici des pays où il y a la persécution. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup plus de couleurs. Et c'est là où il y a la persécution. Il y a des pays sans persécution. Et il y a beaucoup de persécution. Et pensons à ces bien-aimés qui sont persécutés, mais qui continuent à célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Et ont un cœur pour eux. Alléluia. Qui suis-je? Qui suis-je? Tu es Seigneur. Amen. Mais si j'affirme cela, il faut que je sache ce que ça représente. Jésus est le Seigneur. Il est le Maître. Il est certes le Sauveur, mais il est le Seigneur. Alléluia. Et il est digne de respect. Dieu est digne de respect. Amen. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachi, Dieu pose la question à ceux qui sont sacrificateurs, ceux qui étaient censés servir Dieu, servir Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que le sacerdoce, c'est l'ensemble de l'Église. Nous sommes un peuple acheté, un sacerdoce royal, dit la parole de Dieu. Et le sacrificateur disait, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Autrement dit, à ceux qui étaient censés me servir, il me dit, mais dites des choses, mais vous ne m'honorez pas comme vous devriez le faire, vous ne me craignez pas comme vous devriez me craindre. Et on veut honorer Dieu. Alléluia. Et on veut avoir cette saine, sainte crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, au sujet de la crainte, concernant Noé, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, qui est le chapitre de la foi, il est dit que c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver. Famille. Il y a la foi, mais il y a aussi la crainte. Dieu lui a dit quelque chose qui, sans doute, pouvait apparaître comme insensé ou déraisonnable.
Mais Noé n'a pas douté, n'a pas contesté, il a été saisi d'une crainte. Il a dit ce que Dieu a dit, je vais faire en conséquence. Alors quelqu'un dira peut-être qu'il a été timidement averti. Et je vous dis, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu, ce livre nous parle et nous sommes donc timidement avertis, timidement informés, divinement exhortés. Et donc la question de savoir si nous recevons cette parole telle qu'elle est comme la parole de Dieu, mais aussi avec cette crainte respectueuse, cette crainte dans la bouche, c'est-à-dire, tu l'as dit, je le crois et je le fais. Alléluia. Et la parole de Dieu nous avertit sur tant de choses et nous bénissons Dieu parce que justement, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance, dans la confusion, mais Dieu veut que nous sachions qui il est, quel est son dessein, quelle est notre destinée, et même tant au temps dans lesquels nous vivons, que nous sachions effectivement toutes ces choses qui arrivent avaient été aussi prophétiquement annoncées. Alléluia, l'Éternel. Alors que nous puissions, comme Noé, qui finalement a cru à la parole de Dieu, a respecté la parole de Dieu, et qui a dû prendre le temps nécessaire pour accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Vous savez, la notion de temps, ce n'est pas évident, hein? Les chrétiens, il faut que nous allions jusqu'au bout, il faut persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Et on a dû se moquer de lui. Hein? On a dû se moquer de lui. Mais il a cru et saisi d'une crainte respectueuse, il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire et il a eu bien raison. Alléluia. Les termes, peut-être que la multitude disait, ça n'est pas raisonnable. Mais au terme, nous savons que c'est Noé qui a eu raison. Alléluia. Alors, Jésus pose la question et Pierre répond quelque chose qui est essentiel pour nous. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas, ça ne vient pas de toi, c'est vraiment parce que Dieu te l'a révélé. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Mais il va plus loin. Le Messie, c'est le Fils de l'homme, si vous attendez le descendant de David. Mais il dit, tu es le Fils du Dieu. Alléluia. Tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est là où ça devient compliqué pour beaucoup qui veulent bien voir en Jésus un homme remarquable, un prophète, mais il est question de le connaître comme Fils de Dieu. Là, il y a des gens qui sont non seulement hostiles, mais parfois terriblement hostiles. Et nous croyons selon les Écritures que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et bien, cette révélation. Et je crois que l'Église, c'est un bon moment pour l'Église de savoir que Jésus est le Christ, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais une chose que Pierre ne sait pas encore à ce moment-là, et que nous savons aujourd'hui, et qui est fondamentale, et Jésus va commencer à parler de ces choses en disant, il faut que cela arrive, il faut que ces choses arrivent, il va falloir que j'aille à Jérusalem, il va falloir que je subisse finalement quelque chose de terrible, il va falloir que je sois mis à mort. Il va falloir que je sois crucifié, mais je vais ressusciter quand Pierre en conseil. C'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas comprendre parce que c'est pas ça qu'ils attendent. C'est pas un Messie comme cela qu'ils attendent. Et vous avez vu à la fois sa réaction, peut-être sans doute même bien motivée. Hein. Il est plein de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Faut-il que nous soyons en accord avec les enseignements de la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus lui dit, Pierre, tu m'es insupportable, tu m'es adversaire en t'opposant à cela. Et finalement, même si Pierre ne pouvait pas comprendre, dès lors que Jésus l'avait dit, Pierre devait dire, même si je ne le comprends pas, je ne peux pas mettre en question la parole de Jésus, ce n'est pas possible. C'est vrai. Et pourtant, parfois, c'est ce que l'on fait, ou en tout cas, c'est ce qu'on les a, peut-être c'est la parole de Christ. Mais dès lors que Jésus l'a dit, même si nous ne le comprenions pas, on peut alors crier, nous enseignant, j'ai besoin que tu m'éclaires, pour que je puisse comprendre ces choses, mais je ne vais pas m'opposer à ta parole. Vous voyez, Jésus dit que Pierre, en s'opposant à ce que tu lui as annoncé, Pierre se positionne comme un adversaire. On a envie d'être adversaire de Dieu. Hein. On préfère recevoir la parole de Dieu, bien sûr, et encore une fois, il y a bien des situations où peut-être on dira, j'ai du mal à comprendre, mais c'est-à-dire, je veux comprendre, parce que si tu as dit quelque chose, qu'elles sont un sens, bien sûr, et qu'elles sont essentielles. Alléluia! Il fallait que ces choses arrivent. Jésus savait qu'il n'était pas venu simplement pour faire du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Oui, il était venu pour cela, mais il était surtout venu pour donner sa vie sur la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Elle savait que c'était cela qu'il devait faire. Et j'ai envie de dire que la vie remarquable de Jésus, la vie parfaite de Jésus ne pouvait pas, si j'ose dire comme ça, vous allez comprendre, suffire pour nous sauver, parce que de toute façon, au contraire, même d'une certaine manière, elle pouvait nous condamner, parce qu'elle aurait pu dire, vous voyez, moi, en tant qu'homme, dans mon humanité, Jésus, vous n'avez pas souffert, nous serions condamnés, mais justement, Jésus, vous devez et voulez aller sur cette croix de Golgotha, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Alléluia! Il a pris notre place. C'était indispensable, c'était essentiel. Il fallait que l'on sache, évidemment, qu'il venait de Dieu. Il fallait que l'on sache qu'il était parfait et sans péché. Et il fallait qu'il meure. Et puisqu'il était sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir, il est ressuscité. Alléluia! Amen! Et c'est cela que nous voyons, bien sûr. Et l'apôtre Paul, cet homme qui avant cela avait combattu contre ces choses, mais il eut lui aussi la révélation, il dit, il n'a plus à Dieu de me révéler son fils. Amen. Il n'a plus à Dieu de me révéler son fils. Je crois que nous pouvons dire que ceux qui connaissent Jésus comme sauveur, il n'a plus à Dieu de me révéler. Naturellement, vous ne pouvez pas comprendre, ce qui concerne le débat plutôt hostile. Voilà. Mais il n'a plus à Dieu de venir à notre aide, à notre secours, et de nous révéler Jésus. Et l'œuvre de Jésus. Et cet apôtre dit que l'évangile par lequel nous sommes sauvés, si nous le retenons dans les termes qui nous ont été annoncés, cet évangile donc nous sauve, c'est avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. L'évangile, la bonne nouvelle par laquelle nous pouvons être sauvés, c'est effectivement que Jésus, selon les Écritures, selon ce qui avait été annoncé, est mort pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés, afin que nous soyons délivrés de cette chose, délivrés des liens de la mort, et afin que nous ayons la vie. Et parce que la mort ne pouvait le retenir, il est ressuscité. Et c'est pour nous essentiel. Amen. S'il était mort, mais non ressuscité, nous serions là inutilement. Et parce qu'il est ressuscité, nous savons évidemment que lorsqu'il nous parle de notre propre résurrection à venir, lorsqu'il nous parle de vie éternelle, nous pouvons le croire. Alléluia. Et c'est cet évangile que Paul prêchait, sur lequel il insistait. Et il le rappelle à chaque fois qu'il en a l'occasion, c'est effectivement cela qui est fondamental, cet évangile par lequel nous sommes sauvés, à condition de le garder dans les termes où il nous a été annoncé. Et ce même apôtre Paul, qui constate que parfois il y a ici et là des gens qui s'écartent, et notamment les églises de Galatie, qui étaient troublées par des enseignements qui les amenaient à s'écarter du véritable évangile et à vouloir chercher leur salut dans des choses qui étaient en lien avec l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, eh bien, Paul va les reprendre, bien sûr, et aussi il va leur dire, si moi-même, ou si un ange du ciel, venait vous annoncer un autre évangile, il soit à la tête, ne le recevez pas. Il n'y a qu'un évangile par lequel nous puissions nous sauver.
Amen.
Cette bonne nouvelle, c'est celle de la venue de Jésus, venue en terre, sacrifice de Jésus, sa mort. Moi, quand je pense à la mort de Jésus, quand je sais ce qu'il a dû subir, tous les coups, normalement, ceux qui avaient pris les coups qu'il avait pris au préalable, ils étaient morts avant d'être crucifiés, hein, parce que c'était fait pour déchiqueter le corps. Hein. L'homme ne pouvait difficilement survivre à cela. On s'imaginait dans quel état il était quand il fallait porter cette croix. Et s'il a dû tant souffrir, c'est parce que nous avons tant péché. On ne veut pas prendre le péché à la légère. Mais en même temps, justement, on va aussi se réjouir de la grâce qui nous est faite. Nous ne l'avons pas méritée. Je ne pouvais pas l'obtenir. Personne ne pouvait l'obtenir. Je ne peux pas vous l'accorder. Et c'est Jésus. Et c'est à vous et c'est à nous. Et c'est à chacun d'entre nous de répondre par le moyen de la foi en disant, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le Fils et Dieu vivant. Et par rapport à ce que bien ignoré à ce moment-là, peut-être plus tard, je sais que tu es mort, réellement mort. Tu as été enseveli. Que tu es ressuscité, Paul disait qu'il y avait encore 500 témoins qui étaient vivants au moment où il écrivait par rapport à ces choses. Alors Paul disait aux Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié. Amen. La croix est au centre. On a pris le repas du Seigneur, mais c'est en mémoire de la mémoire du sacrifice de Jésus. Mais aussi, c'est jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous attendons son retour. Alors, Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23.
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi d'autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Je n'ai eu parmi vous la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Amen.
C'est l'essentiel pour nous. C'est le message du salut, de connaître Jésus comme étant celui qui a accepté par amour de se livrer. Ça va transformer notre vie. Et à partir du moment où on connaît le Seigneur, ce n'est pas de façon servile pour avoir envie de lui être agréable, mais c'est une réponse d'amour à l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix de nos âmes. Alléluia. Je vais dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, ce que Moïse pouvait dire à son peuple qui allait entrer en terre promise, et Moïse voulait que ce peuple non seulement entre, mais réunisse toutes les conditions pour y rester, pour ne pas perdre ensuite ce qu'ils avaient reçu. Ce serait dommage que nous ayons reçu et que nous servions ensuite. Alors il disait, écoutez, écoutons la parole de Dieu. Mettez en pratique, alléluia, mettons en pratique la parole de Dieu. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Vous savez que si ce peuple ajoutait ou retranchait, il serait perdant. Et puis, de Deutéronome 5, verset 1er, écoutez-moi les ordonnances, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. Ce qui était vrai pour ce peuple qui devait y aller en tant qu'astrologiste, et bien pour nous, pour la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Alléluia. Apprenons finalement, parce que on a besoin d'apprendre toujours de la part de notre Dieu. Manifestons ces choses. Ne perdons pas ce que nous avons reçu. Alléluia. Demeurons dans la grâce. Nous sommes tournés par la grâce. C'est ce sur quoi l'apôtre Paul insiste aussi. Hein, ce n'est pas par les œuvres. Nos œuvres suivent le fait que nous ayons été sauvés. Et je ne suis pas sauvé parce que je fais telle ou telle chose. Je ne peux être sauvé que par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la grâce de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire. Amen. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de connaître et de comprendre ce que nous devons faire. Alors, il y a un rendez-vous qui est indispensable. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur, nous ne contraignons personne. Mais en tout cas, il faut venir, si j'ose dire, à la croix. Et connaître et comprendre ce que Jésus a accepté de faire pour nous. Il a accepté de subir. Paul dit que c'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs. Ils peuvent comprendre, ils ne peuvent entendre. J'ai fait partie de ceux qui se sont moqués aussi. Parce que Dieu se révèle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a de l'espoir. Hein. Nous savons qu'il y a des hommes qui étaient très éloignés de Dieu et qui ont été touchés par la grâce de Dieu, parfois de manière remarquable, et Dieu remarquable, et transformés sont devenus comme Paul, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est bien de savoir ce que nous avons été avant et de dire, dès lors que Jésus est entré dans ma vie, il y a eu un changement, et désormais, je pense, et je le dis autrement, je ne vois les choses autrement. Autre changement, c'est que sans doute, il n'y a pas eu de conversion, en vérité. Mais je bénis le Seigneur, les transformations qui sont faites, et elles sont par la grâce de Dieu, mais elles sont aussi avec notre acquiescement, bien sûr. La croix de Golgotha. Bon, c'est fondamental. Viens à la croix, peut-être, pour découvrir Jésus. Bien, la croix peut-être, si finalement tu as besoin d'un retour d'une certaine manière, retour à la simplicité de l'évangile aussi. Amen. Alléluia. Pour considérer Jésus. Et je termine par cela. Quand on considère un tel amour, pour pouvoir avoir une assurance, la vie éternelle, mais aussi pour le monde présent, qu'un tel Dieu qui nous a aimé à ce point ne pourra pas nous abandonner. Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous séparer. Autant que nous voulions rester dans cela, car le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et il prend soin de nous, il prend soin de son Église. J'ai évoqué tout à l'heure l'Église persécutée. On a du mal à comprendre que Dieu permet ces choses. Parce qu'il pouvait renverser facilement les adversaires. Et Dieu permet cela. Et quand Dieu est avec l'Église, Dieu bénit ses frères. Et ses sœurs et ses bien-aimés. Et parfois, par leur entremise, il y a des hommes et des femmes qui se font tout de même vers Dieu. Ça paraît étonnant. Et c'est comme ça, on sait qu'on a été au bénéfice de tous les martyrs. Beaucoup ont donné leur vie pour l'évangile, mais finalement, derrière, il y a un fruit. Alors, béni soit Dieu pour ce qu'il nous accorde. Béni soit Dieu pour le salut. Béni soit Dieu pour Jésus. Et Jésus, qui est fils de Dieu, alléluia, Nous mettrons tous et nous du compte à Dieu le Père. Alléluia. Et à prier, afin que le Seigneur fasse grâce, et peut-être que quelqu'un puisse se révéler ce matin, qu'il puisse se confirmer, si nous dire ainsi aussi, pour quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé dans sa foi. Seigneur, nous voulons croire selon les Écritures, et nous voyons selon les Écritures, que Dieu a été certes fils de l'homme, descendant de David, la postérité promise à la femme, à Ève, pour écraser la tête du serpent. Et nous savons que plus, tu es celui qui certes a revêtu notre humanité, et tu es le Fils de Dieu. Et Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as accepté de venir dans un monde à tel point pour nous. Seigneur, et à notre propre secours, nous qui ne bénissons pas. Et tu as voulu te révéler à nous, te bénisser comme ça. Et nous voulons te rendre grâce. Et si quelqu'un, Seigneur, ce matin prend conscience de sa misère sur le plan spirituel et de son besoin d'être secouru, peut-être quelqu'un qui a cherché à droite, à gauche, Seigneur, qu'il puisse savoir ce matin que le chemin, comme ça nous a été rappelé, la résurrection, la vie, le chemin, ah Seigneur, c'est toi. Alors, mon Dieu, révèle-toi, tous les cœurs, et sois béni. Si quelqu'un connaît l'adversité, l'opposition, et qu'on croit à l'injustice, viens à ton tour. Seigneur, que nul parmi nous ne réponde au mal par le mal, mais toujours par le bien. Nous savons que quand nous répondons par le bien, quand nous faisons les choses par le bien, tu nous bénis. Tu ne veux pas bénir le péché, et tu bénis, Seigneur, ce qui est bien. Alors, nous pouvons, modèle,